Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour David Engels et merci d'être avec nous.
Bonjour, mais oui, avec plaisir.
On va prendre un peu de distance avec le sujet avant d'y revenir, chers auditeurs. Dans quelques instants, on entendra Régis Le Sommier sur cette affaire Quentin. Avant ça, une respiration dans ce sujet assez lourd. On va parler des États-Unis, David Engels, qui vivent presque quotidiennement leur manifestation No Kings. Et pourtant, Donald Trump semble aux antipodes d'une vraie royauté, dont de plus en plus d'Européens sentent une véritable nostalgie. Alors, en tant qu'auteur du livre Le Retour du Roi, on vous a reçu à ce propos la semaine dernière. Vous pouvez retrouver l'entretien, chers auditeurs, sur YouTube. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet ?
Oui, très volontiers. La notion de royauté sainte appartient à un univers mental qui nous est devenu presque totalement étranger aujourd'hui. Dans une époque dominée par l'efficacité, la communication politique, la gestion technocratique des sociétés, l'idée qu'un souverain puisse être jugé d'abord à l'aune de sa sainteté personnelle et seulement ensuite de son succès politique paraît anachronique, sinon incompréhensible. Pourtant, durant plus d'un millénaire, l'Europe a conçu le pouvoir suprême sous cet horizon, non comme un simple ou comme simple exercice d'autorité, ni comme administration rationnelle d'un appareil d'État, mais comme vocation spirituelle engageant la totalité de la personne du prince. La sainteté royale ne se réduisait jamais à quelques décisions particulièrement justes ou à des réformes institutionnelles heureuses. Elle concernait l'être même du souverain. Charlemagne, Louis le Pieux, l'empereur Henri II ou Saint-Louis, évidemment, ne furent pas d'abord loués pour leur talent stratégique ou diplomatique, mais pour la cohérence entre leur vie intérieure, leur conduite morale et leur charge publique. La personne du roi formait un tout, prière, pénitence, justice, guerre, fondation de monastères, arbitrage de conflits, protection des pauvres. Le trône ne dispensait pas de la conversion personnelle, il l'exigeait davantage encore, afin de pouvoir lutter contre les tentations du pouvoir, comme le montre déjà très bien l'exemple du roi David. Quelques exemples. Très tôt, déjà, Charlemagne fut perçu comme une figure quasi sacrée. Son œuvre, l'unification de l'Occident latin, la Renaissance carolingienne, la réforme liturgique, s'inscrivait dans une vision presque cosmique de l'Empire, reflet de l'ordre divin. Certes, ces guerres, notamment contre les Saxons, furent brutales, mais comprises comme relevant d'une responsabilité spirituelle autant que politique. La postérité médiévale retint surtout cette dimension sacerdotale de l'empereur, garant de l'unité entre ciel et terre et figure quasi arthurienne. Et à Aix-la-Chapelle, il est toujours officiellement d'ailleurs vénéré comme saint. Louis le Pieux illustre aussi tout particulièrement la tension entre piété et efficacité politique. Marqué par l'idéal monastique, il introduisit la pénitence publique impériale, s'humiliant devant les grands du royaume, après certaines violences initiales, là où ses conseillers recommandaient la fermeté. Certes, sa sainteté n'assura pas la stabilité de l'Empire, mais révéla une conception du pouvoir orientée vers le salut plus que vers la conservation politique, laissant donc ouverte la question de l'impact durable de sa piété face à ses échecs politiques. Henri II, le dernier ottonien, incarna une autre forme de royauté sacrée. Dans un empire féodalement fragmenté, il privilégia la réforme de l'Église, la lutte contre la simonie, le soutien monastique, parfois au détriment même d'alliances plus stratégiques. Et avec son épouse Cunégonde, il fit vœu de chasteté, plaçant ainsi la sainteté même au-dessus de la logique dynastique. Saint-Louis, finalement, offre un autre modèle, plus équilibré en apparence, mais tout aussi exigeant et intérieurement. Roi justicier, arbitre respecté entre les princes européens, il n'en menait pas moins une vie personnelle d'une austérité frappante. Il jeûnait fréquemment, visitait les lépreux, recevait les pauvres à sa table. Lors des croisades, il refusa systématiquement les compromis qui auraient facilité une paix avantageuse, mais moralement douteuse. Sa captivité en Égypte fut le résultat direct de cette intransigeance spirituelle. Ses conseillers auraient préféré une négociation pragmatique, mais lui persistait dans une fidélité à ce qu'il percevait comme la volonté divine. L'échec militaire ne l'empêcha pas d'être canonisé. Une fois de plus, là se manifeste clairement la hiérarchie traditionnelle des valeurs. Mieux valait perdre une campagne que trahir sa conscience.
Et alors, la royauté sainte appartient-elle uniquement au monde médiéval ?
Non, pas tout à fait. Ainsi, plus proche de l'époque moderne, Charles Quint conserve encore quelque chose de cet héritage. Malgré l'ampleur inédite de son empire, il ne cessa de se percevoir comme serviteur d'une mission supérieure. Sa retraite, d'ailleurs, à Yuste, dans un monastère, après son abdication, manifeste très bien cette conscience aiguë de la vanité du pouvoir terrestre. Philippe II d'Espagne, son fils, représente sans doute l'un des derniers souverains à gouverner explicitement sous l'horizon de la sainteté. Profondément pieux, vivant presque en ermite à l'Escorial, il subordonna systématiquement la raison d'État à ce qu'il croyait être la défense de la foi catholique, quitte à ruiner les finances espagnoles et à s'aliéner une partie de l'Europe. Ses contemporains lui reprochaient son inflexibilité, lui voyait dans cette rigidité surtout un devoir envers Dieu. Tous ces exemples révèlent un trait commun. La sainteté royale se manifeste précisément lorsque le souverain accepte de perdre en efficacité immédiate ce qu'il gagne en cohérence spirituelle et exemplarité morale. Le point de référence du règne ne se situe donc jamais dans l'État immédiat, compris comme une entité abstraite, ni dans l'homme érigé en mesure ultime, mais dans Dieu et l'ordre qu'il inscrit dans la création. Le respect des intérêts du royaume découlait de l'obéissance à cette loi supérieure. Protéger son peuple, défendre ses frontières, rendre la justice n'étaient pas des fins autonomes, mais des conséquences d'une fidélité première. C'est pourquoi la royauté sainte impliquait une dimension même sacrificielle. Le roi devait se conformer à une norme transcendante, parfois au prix de ses inclinations ou de ses intérêts immédiats. Un tel modèle rendait évidemment problématique la quête du pouvoir par ambition personnelle, car chercher le pouvoir pour lui-même révélait déjà une faille morale originelle. Alors certes, la tradition médiévale connaissait intrigues, rivalités, assassinats, guerre dynastique et n'ignorait certainement ni le péché ni la violence, tout au contraire. Pourtant, le principe restait clair. La légitimité reposait sur la succession et donc sur une vocation reçue, non sur une conquête par calcul. Devenir roi par naissance ne garantissait certes pas la vertu, mais cela soustrayait au moins en partie l'accession au pouvoir à la logique de l'ambition individuelle. L'héritier pouvait se préparer à sa charge comme à un devoir et non comme à une carrière. La structure dynastique favorisait ainsi, au moins en théorie, l'émergence de caractères formés dès l'enfance à la responsabilité, à la retenue des caractères qui n'avaient plus rien à gagner à part le ciel. Dans les régimes contemporains, en revanche, l'accès aux responsabilités suppose précisément la présence de la capacité à se mettre en avant, à séduire, à mentir, à conquérir, qui se trouve aux antipodes de la vraie sainteté. La logique électorale sélectionne des tempéraments stratèges rarement contemplatif, et dès lors, la structure même du système exclut presque mécaniquement toute forme de sainteté.
Et à quel moment le paradigme s'est fissuré durablement selon vous, David Engels?
Déjà la Renaissance humaniste, en découvrant l'Antiquité païenne et en exaltant l'autonomie de l'homme, modifia en profondeur l'imaginaire politique. Le prince de Machiavel, par exemple, marque un jalon décisif. Le souverain y apparaît comme stratège lucide, maître des rapports de force, évalué selon sa capacité à conserver le pouvoir. La référence à la vertu subsiste, mais elle s'entend désormais comme efficacité, comme ruse, comme adaptabilité. Le schisme protestant, ensuite, accentua encore cette mutation en fragmentant l'unité religieuse de l'Europe et en affaiblissant l'idée d'un ordre sacré commun. La modernité politique parachève ce processus. Les régimes parlementaires et républicains reposent sur la compétition électorale. Celui qui aspire à gouverner doit vouloir le pouvoir, le conquérir, le défendre par la communication et la stratégie. Et l'ambition n'y est plus un soupçon, mais plutôt une condition d'accès. Dès lors, la moralité personnelle se voit reléguée dans la sphère privée. L'espace public exige surtout la compétence, l'efficacité, la capacité à produire des résultats mesurables, mais jamais le témoignage d'une cohérence spirituelle individuelle. Et c'est précisément ce déficit qui alimente aujourd'hui le rejet généralisé de la classe politique. Les peuples ne perçoivent plus leurs dirigeants des figures, ou ne perçoivent plus dans leurs dirigeants des figures morales, mais des techniciens du pouvoir. Et vu l'ampleur inouïe de la crise identitaire de notre civilisation, l'approche technicienne semble lentement tomber dans le discrédit. Un discrédit qui frappe d'ailleurs la gauche libérale comme la droite contemporaine, d'Orban à Trump, dont l'énergie et la détermination ne compensent pas l'absence d'élévation intérieure plus que perceptible. Dans ce contexte, la question d'un renouveau spirituel du politique s'impose. Une société ne se redresse pas uniquement par des réformes techniques des programmes économiques, mais elle requiert des personnes dont la vie témoigne d'une orientation supérieure. Certes, il serait illusoire d'imaginer un simple retour institutionnel aux monarchies d'antan comme une solution automatique au mot présent. La royauté sainte n'était pas un mécanisme abstrait, mais une exigence intérieure rendue seulement possible par la configuration mentale d'une civilisation entière. Mais tant que la politique restera fermement enfermée dans l'immanence, dans la logique de l'opinion et de la gestion, elle produira des dirigeants compétents ou habiles, mais rarement des figures capables d'élever l'âme collective et de réunir à nouveau notre civilisation autour de cette vocation plus élevée dont l'absence la détruit à petit feu. Dès lors, une restauration morale de l'Europe supposerait donc davantage qu'un changement de parti ou de constitution. Elle impliquerait une redécouverte de la vocation personnelle à la sainteté, surtout chez ceux qui exercent l'autorité. Sans cette quête, toute réforme politique demeurera superficielle, mais avec elle, même des structures imparfaites pourraient devenir le lieu d'un vrai témoignage. Mais possédons-nous encore cette capacité, non seulement de développer chez nous, mais aussi de reconnaître dans autrui la sainteté, et puis surtout de lui donner une place dans le monde décisionnel ? Je n'en sais rien.
Ah oui, la question reste ouverte. Merci beaucoup David Engels pour cette chronique, encore une fois une petite respiration dans le sujet du jour. On vous retrouve lundi prochain.
C'est horrible en effet.
Ligne droite, émission spéciale.
Et on poursuit avec vous, chers auditeurs, toujours sur ce sujet, la mort du jeune Quentin qui soulève énormément de questions, de sujets, de polémiques. C'est l'heure de l'analyse de Régis Le Sommier. Bonjour Régis.
Bonjour Liselotte.
On est avec à nouveau Édouard Bina, puisque vous avez en commun d'avoir étudié dans la même ville, fréquenté les mêmes bancs. Et je cède la parole à Alexandre de Galzin pour cet entretien.
Merci beaucoup Lise Lutz. Alors on va évidemment, donc, vous venez de le rappeler, Régis, vous avez été étudiant à Sciences Po Lyon il y a à peu près 30 ans, 30 si ans, je ne dis pas
ouais.
de bêtises. Ça ne vous rajeunit pas, voilà.
Ça ne vous rajeunit pas, oui.
Et Édouard, c'était il y a 3 ans à peu près.
Non, donc, je suis toujours étudiant, je finis cette année.
Officiellement, vous l'êtes toujours, d'accord, très bien.
J'ai mon diplôme en avril.
Ça vous rajeunit. Et donc, effectivement, alors Régis, vous vouliez commencer par votre édito, hein, une sorte de témoignage un
oui,
petit peu
fait,
de
oui,
ce
c'est...
que c'était il y a 30 ans.
Oui, c'est un témoignage un peu particulier qui m'a, en fait, évidemment, la mort de Quentin m'a rappelé plein de choses à propos de Sciences Po Lyon. Je vais essayer de vous j'ai remué un peu les souvenirs. Et alors, donc c'était une époque, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On était en septembre 1994. À l'époque, j'avais échoué d'un rien l'oral à Sciences Po Paris et je tentais le concours de l'IEP de Lyon en admission parallèle, donc directement en deuxième année. Une fois admis, je m'installais donc à la rentrée dans la capitale des Gaules, dans laquelle j'allais passer 2 ans. Alors je débarquais à Lyon avec mes convictions. Rapidement, à Sciences Po, je fus classé parmi les élèves dits de droite. Cela ne m'empêcha nullement d'être apprécié par mes professeurs de gauche, en premier lieu par Jean-Jacques Kerran, maire de Bron à l'époque, une des édiles socialistes du coin qui sera ensuite ministre et président de région. L'établissement était alors dirigé par un certain Georges Mutin, docteur en géographie, grand spécialiste du tiers-monde. Ça, déjà, il y a la note. Hein. Le BDE, le bureau des élèves, était solidement tenu par la gauche. Son responsable, Bertrand Gaume, deviendra préfet des Hauts-de-France après une carrière au Parti Socialiste. Il m'arrivait d'avoir avec ses équipes des échanges de qualité. Nous avions même créé un journal qui s'appelait Présence critique, qui attirait des plumes de droite comme de gauche, c'était ce qu'on souhaitait. En cours, presque tous les profs étaient de gauche, mais certains étaient intelligents. Ainsi, notre prof d'histoire, Bruno Benoît, avait saisi les diverses sensibilités politiques de ses élèves. Alors, c'était un républicain farouche, qui mangeait sa tête de veau le jour de la mort du roi, selon une tradition locale, et avait écrit un livre sur la sorcellerie sur la colline Saint-Jean à Lyon. Alors, chez lui, pourtant, la curiosité intellectuelle avait toujours le dessus sur le sectarisme dont il se tenait éloigné. Il eut l'idée de nous faire rejouer le procès de Philippe Pétain lors d'un cours sur la libération de la France. Il m'avait désigné pour jouer le rôle du procureur général, André Mornay, et un ami, sympathisant communiste, tenait celui de Jacques Isorni, l'avocat de Pétain. Le but étant de se mettre dans la peau de quelqu'un opposés à nous politiquement. On était loin des meetings de Rima Hassan déguisés en conférences et qui confinent à de l'idolâtrie. La première année, on nous avait proposé néanmoins de voir un film orienté, Les Nuits Fauves, l'histoire du militant homosexuel Cyril Collard. Alors j'étais réticent au départ, mais je finis par assister à la projection, laquelle fut suivie d'un débat certes houleux, mais courtois, où toutes les opinions furent exprimées. Encore une fois, le corps enseignant était on ne peut plus marqué politiquement. On y trouvait Philippe Corcuff, dont le journal Le Monde situe l'engagement à la gauche intellectuelle radicale, quelqu'un qui a écumé toutes les chapelles de la gauche et de l'extrême-gauche, il est passé du Parti Socialiste, Fédération Anarchiste, Mouvement des Citoyens, Les Verts, la Ligue Communiste Révolutionnaire et pour finir, le nouveau parti anticapitaliste. Avec un autre prof de sociologie, lui aussi marxiste bon teint, mais dont j'ai oublié le nom, nous nous livrions en cours à des joutes verbales mémorables. Son dernier cours, je m'en rappelle, s'intitulait l'auto-reproduction des classes dirigeantes. Je fus à l'énoncé pris d'un ricanement sarcastique, il le vit et me demanda « Où déjà, le sommier, allez-vous faire votre stage l'été prochain, votre stage d'été ?» À Paris Match, monsieur. Vous verrez, vous allez vivre en direct l'auto-reproduction des classes dirigeantes. Je ricanais encore. Avec le nombre de fils à papa envoyés en stage à Paris Match, je me rendrais vite compte qu'il avait en réalité entièrement raison. Alors il y avait de la violence, mais elle touchait surtout les universités Lyon 2 et Lyon 3, ou les amphithéâtres où enseignaient par exemple à l'époque les députés FN Pierre Vial et Bruno Gollnisch étaient parfois envahis par des militants d'extrême gauche. Ça n'arrivait très peu à Sciences Po, il n'y avait pas cette violence à l'intérieur de l'établissement. La ville de Lyon, on le sait, a des dispositions pour l'émeute. Cela remonte à plusieurs siècles. Pendant la Révolution, elle avait été l'objet d'une répression impitoyable orchestrée par le comité de salut public. Elle connut, comme Paris, une commune, mais qui ne dura pas suffisamment longtemps pour qu'on réquisitionne un baron Haussmann pour en élargir les avenues. Ce qui faisait que la place Bellecour, où commençaient en général les rassemblements militants, permettait aux émeutiers de se carapater dans les ruelles alentour et ainsi d'échapper à la police, voire de la harceler. J'ai appris récemment que cette même police avait fait la demande de pouvoir opérer avec des drones pour repérer les individus d'en haut, mais que ça n'avait pas été accordé par la municipalité dirigée par le maire écologiste Grégory Doucet. Autre élément typique du patrimoine architectural lyonnais, les traboules, du latin transambulare, passées à travers, ce sont des raccourcis qui relient une rue à l'autre à travers un ou plusieurs immeubles. Elles avaient permis aux résistants d'échapper aux hommes de Klaus Barbie sous l'occupation. Elles restaient fort utiles pour fuir l'autorité en cas de manifestation qui dégénère. Celle de la Croix-Rousse avait fait du quartier une véritable forteresse. J'ai entendu dire que l'endroit était devenu un repère de la fameuse Jeune Garde. J'y habitais lorsque je vivais à Lyon, dans un appartement typique de Canut, ces ouvriers tisserands avec une grande hauteur de plafond. Ce n'était pas un repère de l'extrême gauche à l'époque. Il y avait de la drogue, quelques punks à chiens, des kebabs en nombre, mais pas ou peu de gauchistes. Sur l'agglomération lyonnaise, un petit groupe d'extrême gauche virulent tenait le pavé. Il s'appelait Socialisme International et prétendait combattre le fascisme sous toutes ses formes. Cela restait, croyez-moi, très théorique. En face, le Renouveau étudiant, syndicat étudiant du FN, battait le pavé, célébrant par exemple à grands coups d'affichage le centenaire de l'écrivain allemand et grand ami de François Mitterrand, Ernst Jünger. Il y avait aussi une sorte de gude locale baptisée Décision Française, un peu plus nerveux, et qui parfois, du côté du stade Gerland, était rejoint par un groupe d'ultra baptisé les Bad Guns. Quelques échauffourées avaient lieu, des membres cassés, oui, des bourpifs, oui, des coups de bâton, ça arrivait, mais jamais on ne voyait 10 types cagoulés et armés de gants coquets s'acharner à terre contre un seul individu pour le tuer. Ces affrontements se produisaient en général en marge des manifestations. Ils n'étaient pas l'objet d'une traque délibérée, mais méthode propre au manuel de Raphaël Arnaud, où repérés sur les réseaux sociaux, les FAF deviennent des semaines durant l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Depuis la mort de Quentin, j'ai visionné quelques vidéos de la Jeune Garde créée en 2018 pour soi-disant reprendre Lyon, la capitale des fachos. On y voit la plupart du temps des gamins terrifiés, recroquevillés, se prendre des coups par des molosses en capuche dans des coins sombres à l'abri des regards. Alors les fachos ont sans doute causé pas mal de nuisances dans la ville, mais il me semble en réalité que ce soit l'arrivée arrivée de cette fameuse jeune garde qui, voulant éradiquer tout ce qui est fachelot à ses yeux, avait contribué le plus à enflammer le milieu radical lyonnais. Leur conception assez large de l'extrême droite les a amenés d'ailleurs à violenter des militants catholiques, centristes et même des macronistes. Oui, je le crains, avec vos airs de bon samaritain dans les médias, monsieur Arnaud, c'est bien vous qui avez ramené la terreur dans la capitale des Gaules, même si vous prétendez avoir créé votre milice pour défendre les victimes de l'extrême droite. Et vous avez bénéficié, il faut le reconnaître, d'une certaine tolérance quant à vos méfaits. Pendant trop longtemps, des condamnations dont écopaient vos sbires et vous-même n'avaient qu'un très lointain rapport avec celles infligées à vos adversaires, ce qui, par défaut de combattants désireux de finir derrière les barreaux, a fini par vous laisser la rue libre. Aujourd'hui, tout a changé. Quentin est mort. Félicitations. Vous qui, à LFI, vous réclamez des révolutionnaires de 93, vous venez de rejoindre la catégorie des Joseph Fouché, envoyés par la Convention pour détruire Lyon, la fédéraliste, en 1793. Oh, vous n'en êtes pas là. Fouché a tué à la chaîne plus de 1600 Lyonnais, les exécutant la plupart par la guillotine place des terreaux. Mais depuis hier, vous êtes dans le camp des assassins.
Merci beaucoup Régis Le Sommier pour ces premiers mots, déjà assez percutants, il faut le dire. Édouard Bina, je me tourne vers vous. Est-ce que Lyon est encore la capitale des fachos, comme le décrit Raphaël Arnaud, par les mots de Régis Le Sommier? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours, on va dire, cette forte présence nationaliste à Lyon, et est-ce que ça, est-ce que justement l'arrivée de la jeune garde, c'est ce qui a tout rendu plus violent?
Il y a toujours eu une présence de droite à Lyon, il y a toujours eu une présence de gauche à Lyon, et justement j'ai tendance à penser que si Lyon cristallise autant la tension médiatique, c'est avant tout parce que, pour une fois, il y a une opposition. C'est-à-dire, dans la plupart des villes, on a l'habitude d'avoir uniquement la gauche qui bat le pavé, d'avoir la gauche qui a la main mise surtout sur les universités et sur la mairie, sur l'ensemble de la classe politique, métapolitique. Et Lyon, eh bien, une des seules villes où il y a, en fait, effectivement, une opposition de droite. Mais Lyon est-elle une ville de droite? Lorsqu'on voit que le maire est écolo, qu'il y a des quartiers qui sont connus pour être particulièrement à gauche, et qu'en fait, que ce soit Lyon 2... Il suffit de regarder Lyon 2, c'est pas forcément l'université la plus à droite. Il y a de la droite à Lyon, oui. C'est justement ce que ces gens essaient de criminaliser. C'est que la jeune garde s'est créée parce qu'il y avait encore un îlot de résistance, il y avait encore une partie de la société qui refusait le conformisme de gauche.
Régis Le Sommier, quand vous parlez aussi de l'évolution de Sciences Po, l'université aux abords de laquelle a été tué Quentin, est-ce qu'il y avait des affrontements à l'intérieur de Sciences Po, en marge de Sciences Po, comme ça, qui pouvaient se déclencher en un instant? Enfin, en l'occurrence, là, il n'y avait pas vraiment de manifestation non plus. Il y avait une action qui était organisée avec des pancartes par le collectif Némésis. Mais en l'occurrence, on ne parle pas d'une grande manifestation sociale, on ne parle pas de tout ça. Est-ce que c'est déjà des choses qui existaient dans votre temps?
Disons que, il y avait des bagarres. Elles n'étaient pas systématiquement... Disons qu'à Sciences Po, en tant que telle... Comme je l'ai souligné dans cet édito, c'était plutôt place au dialogue. On était plutôt avec des gens. Il y avait de l'hostilité et effectivement, dès qu'on déclarait, enfin, tout ce qui était à droite de l'Uni, était forcément déclassé. Mais ça n'empêchait pas qu'on pouvait, avoir une réflexion, on pouvait parler. C'était pas strictement. Je vous dis, la violence c'était plutôt à l'extérieur. C'était plutôt en marge des manifestations, il n'y avait pas ce phénomène de trac.
Oui, il y avait le football aussi, vous en avez parlé, oui, avec les Bad Guns, mais effectivement, il y a toujours eu du hooliganisme dans les deux camps à Lyon.
Et à Lyon, c'était manifeste. Hein. Il y a eu d'ailleurs, depuis récemment, d'autres groupes antiracistes de supporters, et il y a toujours des tensions au stade, un peu comme au Parc des Princes, pareil. Donc ça, c'était une autre composante. Mais pour reprendre comment Sciences Po, je dirais qu'il y avait, ce que j'ai voulu démontrer en me rappelant de certains souvenirs, c'est que des profs, tout en étant de gauche, nous faisaient faire des débats contradictoires, qu'on n'était pas exclus quand on était de droite, et que, voilà, c'était pas, je vous dis, la grande messe Rima Hassan, où finalement, l'amphithéâtre devient finalement le théâtre d'un meeting où tout le monde est d'accord et il n'y a plus de débat contradictoire du tout. C'est ça qui est terrifiant, c'est que l'extrême gauche tenait le pavé, elle tenait de par, je vous dis, la dénomination des profs. J'ai du mal, moi, à me souvenir à Sciences Po Lyon de profs de droite. Je n'ai pas ce souvenir-là. Certains étaient plus modérés que d'autres, mais ils obéissaient tous à une ligne marxiste, et je pense que malheureusement c'est toujours le cas, et ça s'est empiré. C'est pour ça que j'ai voulu finalement expliquer que on pouvait être de gauche aussi et être tolérant, quoi.
Mais Édouard Binat, justement, aujourd'hui, donc vous êtes quand même le président de la cocarde étudiante, et vous êtes à Sciences Po Lyon. Est-ce que le débat, ou on va dire l'ouverture des idées, que ce soit au niveau des professeurs ou des élèves, c'est quelque chose qui est envisageable ou pas ?
Envisageable par moi, oui. Par les autres étudiants de l'école, moins.
C'est un moins peu... ou pas du tout ?
Disons que c'est un peu compliqué d'être invité dans certaines soirées, d'être présent dans les associations de la fac. C'est-à-dire que très rapidement, c'était au bout d'à peine quelques jours à Sciences Po Lyon, on m'a envoyé un message. Et on m'a dit, il faut que tu fasses attention à toi, tu es déjà en train de te faire remarquer. Ah bon ? Pour le moment, j'étais déjà engagé politiquement, mais je n'avais pas mon nom, prénom, ma tête. Et je me demande, qu'est-ce que j'ai fait de si polémique ? Ah, j'avais défendu la présomption d'innocence. Et donc je discute un peu avec la personne qui me dit, oui, t'as défendu la présomption d'innocence et t'as commencé à rentrer un peu dans le nez de la Stasi locale. Et donc je me dis, bon, 5 ans là-dedans, je suis mal barré. Et en fait, cette personne qui était de bonne volonté me dit, tu devrais faire attention, tu devrais te camoufler un peu plus, je sais que t'es de droite, mais si, déjà que là, ça commence à être chaud, tu vas avoir des problèmes. Et bon, moi, j'ai fait le choix de m'afficher ouvertement, nom, prénom, tête, d'aller à des élections et d'assumer mes idées. Et entre les professeurs qui disent aux élèves de ne pas vous fréquenter, j'ai un de mes professeurs qui discutait calmement avec moi, mais par contre, un jour où j'étais absent en cours, alors, il a fait une intervention dans le cours, ne sachant pas que j'avais effectivement des amis dans ce cours, pour dire aux gens de ne pas me fréquenter parce que j'étais un affreux militant d'extrême droite. Même professeur qui n'a pas hésité, d'ailleurs, à un moment, après une interview que j'avais fait avec France Inter, a commencé son cours en disant « J'espère que vous avez bien tous écouté l'intervention d'Edouard hier sur France Inter pour parler de la cocarde étudiante. » Bon, je n'étais pas vraiment caché, mais c'est toujours très sympathique d'avoir un professeur qui vous met la pression en vous rappelant qu'il connaît vos idées politiques. J'ai des élèves qui m'ont menacé de mort. J'ai eu des tentatives d'agression au sein des locaux. Et c'est, en fait, c'est une ambiance globale qui fait que de mon groupe d'amis étiquetés, qui sont tous plus ou moins étiquetés à droite, la plupart n'ont pas fini leur scolarité à Sciences Po Lyon. Oui. Certains sont partis, tout le monde a cherché à partir. Tout le monde a cherché à partir parce que le climat commençait à devenir invivable. Le vice-président étudiant avait envoyé un mail à l'administration disant que le climat de tension était devenu tellement élevé qu'il craignent qu'il y ait des violences. Et déjà des violences. On en est arrivé à avoir des affrontements devant la fac, à l'époque, entre des groupes qui venaient pour bloquer et des groupes qui venaient pour débloquer l'établissement. Et on était dans un climat, en plus avec les élections présidentielles de 2022, quelqu'un avait envoyé un magnifique message dans le groupe de promo disant « Tous les FAF qui ont voté Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, on va vous le faire payer. »
Ah, bah oui, c'est
assez large.
Oui, ce à quoi un camarade a répondu « Je ne suis pas concerné, son engagement à Zemmour étant effectivement assez connu. » Ce qui avait mis le groupe de promotion relativement...
Ce qui est absolument paradoxal, pardon, c'est de voir en fait la sociologie des gens qui pratiquent cette espèce de persécution qui en fait en général, pour la plupart... prononce ou se réclame d'idées de gauche, mais quand on réalise, je regardais hier soir le pédigré de ceux qui auraient comment tué Quentin, et quand on regarde, qu'on fait simplement les prénoms, bon, Raphaël Arnaud, donc déjà Raphaël, vous avez Jacques Ellie, vous avez une certaine Blandine, et en fait les Kevin et les Jordan ils sont au RN, c'est-à-dire en fait ce ne sont que, ou pour la plupart, des petits bourgeois. La Blandine en question est, je crois, fille d'un magistrat lyonnais, donc en fait quid de du peuple et quid de des paysans, des ouvriers là-dedans, en fait. Hein. Mais c'est là où le comment on va dire, leur action est particulièrement vicieuse, c'est qu'ils profitent d'un système qui les manipule depuis des années, qui manipule l'extrême gauche depuis très longtemps, qui a avec l'extrême gauche une tolérance qu'elle n'a pas avec le camp d'en face. Et ce sont des gens qui sont très très forts pour installer un climat. La façon dont vous avez étudié, je le dis moins, un peu moins, parce qu'il y avait moins peut-être cette pression dirigée par les profs, encore que certains profs étaient, on va dire, n'étaient pas toujours bienveillants. Mais j'ai aussi, moi, étudié à Tolbiac. Oui. Cette terreur répandue, ou ce climat qui consiste... Moi, j'avais mon nom au marqueur au-dessus du tableau, avec marqué le sommier fasciste à Tolbiac. Donc voilà, ça crée un climat, c'est-à-dire que vous finissez, comme vous l'avez dit, par ne plus par renoncer à vos études, ou essayer de trouver une autre voie, ou vous dépêcher d'aller dans la voilà. En fait, l'idée étant de dissuader progressivement la personne de sa présence, et finalement d'épurer complètement la place, quoi.
On a l'impression que ça marche d'une certaine façon, puisque ce que vous décrivez, c'est que tous vos amis de droite ont voulu partir de Sciences Po Lyon. Est-ce que, selon vous, on va vers une forme de reconquête des universités par justement des personnes du camp national, ou alors est-ce qu'on va vers une sorte de séparation entre les universités de gauche et les universités de droite ?
En fait, cela dépend uniquement de nous, étudiants français. C'est à nous de nous engager, de faire en sorte que nos universités soient de droite ou de gauche. Ce que j'ai toujours dit à mes amis à Sciences Po Lyon, parce qu'ils me disaient, mais toi, particulièrement, tu es la personne dont il y a le nom, prénom, la tête, qu'on vient essayer d'agresser à la sortie. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à finir ta scolarité? Je pouvais faire passerelle, avoir mon diplôme en étudiant dans une autre université. Et je leur ai dit, mais la minorité d'extrême gauche à Sciences Po Lyon, celle qui milite réellement, qui vient essayer de nous invectiver, qui vient essayer de nous harceler, etc., ils sont combien? Ils sont une trentaine, quarantaine. Solidaires étudiants, à mon époque, ils étaient 30-40. Notre groupe d'amis de droite, celui que j'ai créé et où on faisait les soirées, on est 32 dessus. Si demain, chacun d'entre eux assumait d'être de droite et venait à mes côtés, on serait à nombre équivalent. Évidemment, l'université, ma promotion a voté 85% Mélenchon. Mais le souci, c'est que les universités sont de gauche parce que les gens de droite ont peur et choisissent de les quitter. En fait, les gens de droite partent dans des universités de droite pour ne pas subir les universités de gauche, s'étonnent que les universités sont de gauche. Et ensuite, les universités de droite, quand ils sont dedans, au lieu de s'engager politiquement, ils disent « Ah, mais il n'y a pas besoin ».
Oui.
Et c'est ce que je vois, c'est ce qu'on a vu à Lyon 3, c'est que beaucoup de gens, c'était une université qui était connue pour être de droite à l'époque, ou pareil à Assas. Les gens ne s'engageaient plus parce que c'est de droite, il n'y a pas de souci, on n'a pas les mêmes problèmes qu'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, Assas, c'est l'extrême gauche qui est en tête. Lyon 3, c'est l'extrême gauche qui est en tête. Il n'y a plus d'université de droite. Parce que la droite partout a failli et a dit, les universités de gauche, on les laisse à la gauche parce que c'est pas grave s'ils ont leurs universités, et les universités de droite, il n'y a pas besoin de militer parce qu'elles sont déjà de droite. Et tout le système s'est effondré. Il faut, quand on a des convictions, on n'est pas obligé d'aller agresser les personnes en face, mais quand on a des convictions, on doit les défendre, on doit les porter, c'est un devoir. Et ça peut se faire dans le cadre de débats, ça peut le faire dans beaucoup de cadres, pas uniquement militants, mais les convictions sont faites pour être affirmées. Si on ne les affirme pas, non seulement on les perd, mais on laisse les gens autour de nous.
Mais je crois qu'il y a aussi dans la psychologie de la gauche et de l'extrême gauche une forme de cooptation qui, d'étudiant, transforme quelqu'un en militant à vie. C'est-à-dire, je citais un exemple tout à l'heure, celui qui s'occupait du BDE, qui était au PS, qui aujourd'hui est préfet des Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'il y a une carrière toute tracée. Le militant de droite, il va faire un autre job, en général, qui n'a qu'un très lointain rapport avec l'enseignement et l'université, finalement, à très peu d'exceptions près, tandis que la gauche coopte ses futurs dirigeants, une forme de reproduction d'une classe, et ils sont coachés quelque part. Et ça, l'écosystème est présent, c'est-à-dire il est tenu par les profs, c'est important. Dans cette tribune, moi j'ai tenu à rappeler qui étaient les profs pour montrer que finalement le spectre n'allait pas très loin et qu'on restait dans une survivance du marxisme qui est complètement aberrante aujourd'hui quand on regarde l'évolution de la société.
Mais est-ce que on s'assumait de droite déjà à l'époque?
Moi, oui. Maintenant, j'avais quelques camarades aussi qui s'assumaient de droite. Mais il y avait quand même, c'était quand même l'époque du cordon sanitaire vis-à-vis du RN. Enfin, c'était le FN à l'époque. Et c'était la référence constante. C'était Jean-Marie Le Pen. On était dans les années aussi SOS Racisme. Donc il y avait déjà cette gang existait déjà. À l'époque piloté par monsieur Julien Drey, qui aujourd'hui vient donner des leçons, expliquer qu'il a changé de camp, ou en tout cas qu'il a beaucoup évolué. Et lui aussi, lui-même à l'époque utilisait l'énergie d'extrême gauche pour menacer tout ce qui se passait, tout ce qui n'était pas finalement politiquement correct, on dira.
Et alors, dernière question, il nous reste 5 minutes, alors peut-être que vous deux vous pourrez y répondre, mais selon vous, comment est-ce qu'on a pu arriver à une telle escalade? Comment est-ce qu'on a pu arriver à un tel niveau de polarisation, d'absence de dialogue? Encore une fois, on voit une évolution entre votre situation, Edorbina, et celle de Régis Le Sommier, malgré tout. Comment on peut arriver, même sur les méthodes de combat, entre guillemets, de rue dont vous parliez, qui sont passées, on va dire, de bagarres de groupe à groupe, en marge de manifestation, à un lynchage à 15 contre 3. Comment est-ce qu'on est parvenu à cette évolution, selon vous, peut-être Edouard Bilin, pour commencer?
Eh bien, pour moi, c'est avant tout une faillite de la droite. C'est qu'on a une droite qui est complètement lâche, qui, à chaque fois que des gens plus à droite qu'eux, ou considérés comme plus à droite qu'eux, ont un souci, ils vont se dire « Ah, c'est pas moi, moi j'ai rien à voir ». Et je me souviens, à un moment, d'un pauvre responsable de l'Unitour qui se faisait alpaguer par l'extrême-gauche dans son université et qui se fait coincer contre un mur et qui se fait menacer, etc. Ah, et quand la vidéo sort sur Twitter, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, il dit « Mais je comprends pas pourquoi vous en prenez à moi, l'extrême-droite, l'extrême-droite violente dans les universités, c'est la cocarde ». Et je lui ai répondu « Mais en fait, si les gens veulent t'agresser, leur donner des gages, ça ne va rien changer, ils vont... Et en fait, ils ont un fonctionnement de prédateur. C'est le requin. S'il se voit du sang, il vient, il attaque. S'il sent la faiblesse. Et en fait, arriver et dire je ne suis pas facho, hein. S'il vous plaît, prenez-vous-en à lui. Ils voient que tu es une victime, ils vont continuer, ils vont s'acharner. Mmh. Alors que justement, c'est ce fonctionnement de bloc, de soutenir ses camarades, de se soutenir entre nous. Et c'est ce que nous avons fait à Sciences Po Lyon. C'est du membre de LR. Hein, à celui qui milite à la cocarde étudiante, nous avons fait un groupe où nous avons réuni l'ensemble des étudiants de droite, et lorsqu'il y avait un problème, nous nous soutenions entre nous. Mmh. Même des étudiants pas très politisés, parce qu'ils avaient compris que face à la meute de gauchistes, si nous étions juste 2 ou 3, nous n'aurions pas passé les 5 ans.
Régis Zemier, pour vous, c'est la conséquence de la lâcheté de la droite?
Je suis assez d'accord, je souscris un petit peu à ça, parce que c'est vrai que la droite a une capacité, on la traite souvent de droite la plus bête du monde, à se désunir au moment où il faudrait qu'elle soit unie, alors que la gauche a une faculté à gommer ses différences et à avancer ensemble. Ça, c'est une des qualités des gens de gauche, il faut le reconnaître. Ils ont une certaine efficacité. Maintenant, sur la question de l'ultra-violence, on peut reconnaître quand même que des Raphaël Arnaud, il en a existé dans l'histoire de l'extrême-gauche. Dans les années 70-80, vous aviez Michel Recanati, qui était le chef de du service d'ordre de la Ligue communiste révolutionnaire, notamment au moment de l'attaque du meeting d'ordre nouveau à la mutualité. Le service d'ordre de la Ligue, à l'époque, était quasiment militarisé. Il faisait des stages, c'était des stages parachutistes, quoi, quasiment. Cette extrême-gauche ultra-violente, elle existe depuis longtemps, elle se régénère, elle change de forme. Maintenant, l'extrême droite sait aussi être violente, mais je dirais que il y a, me semble-t-il, une plus grande efficacité et des par feu, on va dire, à l'extrême gauche, c'est-à-dire que ayant envahi, ayant et continuant à maîtriser la sphère universitaire et médiatique d'une certaine façon, puisque 80%, comme vous le disiez, dans une école où on fait de la communication, 80% des gens votent pour Jean-Luc Mélenchon, on est quand même, c'est quand même incroyable. Il y a voilà, il y a un système qui fait que tout excès, et on va voir comment on va se dérouler le traitement médiatique de Quentin, de la mort de Quentin, parce que là là on sent bien que voilà, vous avez des gens qui certains groupes de droite agitent des pancartes et le lendemain ils sont en garde à vue, et là vous avez toujours pas de garde à vue. Moi je m'attendais ce matin à ce que ça tombe, toujours pas. Voilà, donc ça c'est quand même assez incroyable. On sait que les magistrats lyonnais sont particulièrement cléments avec la jeune garde en particulier. Il suffit de regarder, deux de ces militants ont été réhabilités parce qu'ils ambitionnaient des carrières dans la fonction publique. C'est quand même absolument incroyable. Et ça, vous n'avez pas tout cet appareil, tout cet écosystème à droite qui permet à des militants finalement de s'affirmer. Donc le militant, qu'est-ce qu'il devient? Vous avez évoqué ce type de l'Uni à Tours. Il est tout seul dans son coin, au bout d'un moment il arrête parce qu'il n'a pas envie de finir en prison déjà, et parce que les peines aussi sont beaucoup plus lourdes quand il s'agit de quelqu'un de droite et de quelqu'un de gauche, c'est tout. Donc il y a un écosystème à réinvestir.
Eh bien écoutez, c'est ce qu'on essaie de faire à Radio Courtoisie, de réhabiliter justement tout cela et de assurer cet écosystème aussi pour ne pas que la gauche impose, comme d'habitude, comme elle le fait toujours, son récit malhonnête sur les événements. Donc merci beaucoup d'avoir été là tous les deux, Régis Le Sommier et Edouard Bina, voilà, pour commenter un petit peu l'évolution de Sciences Po, de l'atmosphère de Lyon, et puis toutes ces évolutions. On espère que tout cela changera très vite. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec une chronique de Raphaël Audouard. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte.
Alors on parle des dernières élections au Japon qui ont vu le triomphe des patriotes. Est-ce que vous pourriez nous donner le contexte politique de ce pays ?
Alors en fait, effectivement, les patriotes ont remporté les dernières élections au Japon, ce qui est une élection assez importante puisque le Japon reste un des principaux alliés du bloc occidental dans le Pacifique. Et vu les tensions avec la Chine, c'est une élection qui était très scrutée. Le Parti libéral-démocrate qui a remporté les élections est le parti dominant depuis sa fondation en 1955. Il a dirigé le Japon de façon quasiment continue, sauf excepté 4 années. C'est lui qui était au pouvoir. Et c'est un parti un peu fourre-tout en fait qui regroupe l'ensemble des tendances de la droite, puisqu'on trouve en son sein à la fois une tendance plutôt modérée centriste qui correspondrait en France à peu près à Édouard Philippe, une tendance plus néolibérale qui correspondrait au LR, une tendance plus patriote et populiste qui correspondrait plus au Rassemblement National ou à Reconquête. Donc en 2024, ce parti avait remporté les élections, mais avait fait une contre-performance. Il avait perdu sa majorité au Parlement. Donc une élection interne en 2025 au sein du parti avait vu la victoire de Sanae Takeshi, qui incarne l'aile droite du parti, donc très à droite sur le nationalisme. Elle est favorable à la révision de la constitution pour mettre fin au caractère pacifiste de la constitution japonaise. Elle est favorable à la lutte contre l'immigration. Elle défend aussi une position ferme face à la Chine. Elle est aussi très à droite sur les questions culturelles, défend les valeurs traditionnelles. Mais elle est plutôt au centre-gauche sur les questions économiques, elle est favorable à une forme d'interventionnisme keynésien, elle est protectionniste, elle refuse l'austérité, elle est favorable à un état stratège et une augmentation de la dépense publique. Donc on est face à un parti à la fois très à droite sur les questions culturelles et de nationalisme, mais plutôt au centre-gauche sur les questions économiques. Donc elle, n'ayant pas de majorité, elle a dissous le Parlement, et donc ces élections se déroulaient donc dans un contexte de reprise en main du Parti libéral-démocrate par l'aile nationaliste héritière de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe.
Et quels ont été les résultats?
Contrairement à la France, la dissolution a fonctionné puisqu'on a vu une victoire écrasante du Parti libéral-démocrate qui réalise le meilleur score de son histoire avec 316 sièges sur 465, c'est-à-dire en fait 68% des sièges. L'opposition centriste s'effondre avec seulement 16% des sièges. Un petit parti néolibéral, le Parti de l'innovation, plutôt proche du PLD, obtient à peu près 7% des sièges. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le Sanseito, qui est un parti nationaliste populiste japonais, obtient 15 sièges, donc augmente sa présence au Parlement. Et c'est assez intéressant puisque le Sanseito avait déjà commencé à augmenter ces dernières années mais en prenant sur l'électorat du PLD. Ce qu'on a vu là, c'est qu'à la fois le PLD réalise un excellent score, mais en même temps, le Sansei Ito continue à progresser. Sachant qu'on a quand même une différence de position entre ces deux partis, le PLD est quand même plus institutionnel, là où le Sansei Ito est plus, correspond plus à une droite nationaliste activiste, plus proche d'une droite plus de rupture. Son électorat est plus jeune, plus urbain, plus populaire aussi que l'électorat du PLD qui est plus âgé, plus institutionnel. Et donc en fait, cette montée s'explique aussi par le fait que c'est le Sansei Ito qui capte maintenant tout l'électorat, on va dire, anti-système, puisque dans le même temps, la gauche s'effondre complètement et perd 2/3 de ses sièges et est quasiment sortie du Parlement. Donc c'est une victoire absolue des patriotes, à la fois évidemment du PLD, mais aussi des nationalistes plus activistes du Sansei Ito.
Et comment vous expliquez cette victoire ?
Il y a plusieurs choses. Déjà, l'opposition n'est pas crédible en réalité au Japon, c'est-à-dire que même si jamais les gens ne sont pas satisfaits du PLD, parfois, personne ne croit que l'opposition est réellement capable de gouverner le pays. Par ailleurs, la victoire de Sanae Takeshi a un peu montré à l'électorat conservateur que le Parti libéral-démocrate avait écouté leur colère et qui avait mené à leur faible score des dernières élections. Donc là, il y a une remobilisation de l'électorat conservateur. La montée de l'immigration au Japon, qui reste très faible par rapport à la situation en Europe, mais qui commence à apparaître, à provoquer une réaction aussi d'une partie de l'électorat de droite japonais. Et enfin, les tensions avec la Chine et avec notamment Taïwan a aussi renforcé Sanae Takeshi, puisqu'elle est favorable à un discours très ferme vis-à-vis de la Chine et à un discours de soutien très clair à Taïwan. Donc tous ces éléments-là ont poussé l'électorat conservateur à se mobiliser pour le Parti libéral-démocrate.
Et alors, quelles devraient être les conséquences de cette victoire ?
Déjà, au niveau de la politique extérieure, ce qu'on devrait voir, c'est une radicalisation de le Japon dans sa confrontation avec la Chine, en fait, continuer dans une logique de confrontation avec la puissance chinoise de soutien très ferme à Taïwan, et aussi à la Corée du Sud contre la Corée du Nord, mais aujourd'hui c'est surtout la Chine qui intéresse le Japon. Et sur les questions de politique intérieure, ce qu'on devrait voir, c'est à la fois une mise en avant des valeurs patriotiques et traditionnelles, un discours de lutte contre l'immigration beaucoup plus affirmé de la part du PLD, et un discours économique plutôt keynésien, donc une relance keynésienne avec un renforcement des politiques protectionnistes, d'une intervention d'État dans l'économie et de réindustrialisation du Japon.
Merci Raphaël Audouard pour cette chronique qui nous a un peu emmené à l'autre bout du monde, mais effectivement c'est quand même toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs et puis peut-être d'en tirer quelques conseils pour ce qui se passe en France et en Europe. Merci, et
merci
puis
à vous.
Je vous dis à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour Liselotte.
Alors
bonjour,
vous voulez
Franck.
Revenir évidemment sur la mort de Quentin à Lyon et d'abord expliquer qui il était, d'où il venait, c'est important.
Oui, alors je pense que beaucoup d'entre nous ont été choqués de lire tout et n'importe quoi, notamment sur les réseaux sociaux, sur celui qui a été non seulement victime d'un guet-apens, mais surtout de la lâcheté d'une meute soi-disant antifasciste. Alors il faut lire l'article de Paul Sugy publié samedi déjà dans le Figaro et que l'on peut lire sur le figaro.fr. Il relate les propos de maître Fabien Rajon, l'avocat de Quentin, qui dresse le portrait d'un jeune homme studieux, étudiant en mathématiques de 23 ans, pratiquant le tennis et la philosophie, et il assure que Quentin a toujours défendu ses convictions de manière non violente. Quentin était originaire de Vienne, dans l'Isère. Il défendait des idées politiques et participait depuis plusieurs années aux activités de groupe nationaliste lyonnais, encore que des témoignages reçus par le Figaro assurent qu'il en était moins proche, ces derniers temps privilégiant des engagements religieux plutôt que politiques. Et on a entendu ce matin un de ses amis à votre micro, Liselotte. Un ami proche donc de Quentin, Vincent, qui fréquente comme lui la paroisse traditionnaliste de la Fraternité Saint-Pierre à la collégiale Saint-Just de Lyon, décrit son ami comme un jeune n'ayant pas reçu d'éducation chrétienne, mais s'étant converti au catholicisme il y a quelques années sous l'impulsion d'une recherche intellectuelle et spirituelle, je cite. Il se rendait souvent à la messe en compagnie de son ami qui par ailleurs a reçu les derniers sacrements de l'Église par l'abbé Mathieu Grenier, un prêtre de la communauté des missionnaires de la miséricorde divine. Quentin avait par ailleurs entraîné sa famille, notamment ses parents, à sa suite sur son chemin de foi, et eux-mêmes se sont convertis au catholicisme. Ses proches indiquent qu'il était investi dans la vie pastorale, et en particulier au sein de la chorale, et interrogé par le Figaro, Victor Aubert, président d'Academia Christiana, qu'on le connaît bien ici, À ligne droite, Quentin fréquentait régulièrement les événements de l'association sans être membre. Ceux qui l'ont croisé dans ce cas décrivent au Figaro un jeune en recherche et en tout cas non violent. Donc franchement, à lire ces témoignages, on imagine mal Quentin faire partie d'une milice ou d'un quelconque service d'ordre. Prêt à en découdre, contrairement à ce que peut penser un certain Sylvain Boulouk, historien des radicalités politiques, qui s'exprimait hier sur France Info et qui pratiquait un syllogisme honteux. Parce qu'on était amis du groupe Némésis et que l'on entourait ses militants, alors forcément, on était dans un service d'ordre. Heureusement, soyons honnêtes, la journaliste Virginie Leguet, qui était dans le studio, a remis les choses à leur place, même si elle n'a pas convaincu cet historien, pour le moins sectaire.
C'est toujours une honte, hein. Et qu'en dit l'éditorialiste du Figaro, Vincent Trémollet de Villers ? On sait que vous l'aimez bien, Gilles.
Oui, parce qu'il va droit au but en considérant que chaque mot a son importance. Quentin, dans cette histoire, n'est pas un militant pris dans une rixe, mais un martyr de la liberté d'expression que l'extrême gauche, aidée par trop de complices, veut remplacer par son hideuse loi de la meute. Il ajoute, des milices, depuis des années, sèment la terreur en toute impunité, celles qui ciblent notamment le RN, Éric Zemmour ou Bruno Retailleau, qui pourchassent les jeunes femmes de Némésis, qui intimident les catholiques et protègent les islamistes. Le fascisme peut revenir sur scène à condition qu'il s'appelle antifascisme, nous a prévenu Pasolini. Ce totalitarisme antifasciste, prophétisé par Finkielkraut, était là à Lyon jeudi soir, dans sa forme la plus sauvage, mais il plane dans l'atmosphère depuis trop longtemps, comme un conformisme vénéneux. Une génération entière formée à déshumaniser tout ce qui s'approcherait de près ou de loin de l'extrême droite, entre guillemets, un personnel politique qui par couardise donne le change, un clergé médiatique qui forge des anathèmes et à la fin, un gamin venu paisiblement protéger une banderole contre l'islamo-gauchisme dans nos facs qui meurt sous un déchaînement de coups. Et Trémollet de Villers conclut, un martyr de la liberté d'expression que l'extrême gauche, aidé par trop de complices, veut remplacer par son hideuse loi de la meute.
Ouais. Et qu'en est-il de l'enquête?
Oui, alors comme l'a précisé le site du Parisien.fr, le parquet de Lyon donc, a indiqué avoir ouvert une enquête après, avec pour chef d'accusation coup mortel aggravé, violence aggravée après la mort de l'étudiant. Les violences sont aggravées par trois circonstances, de réunion, d'usage d'armes et de mise en cause dont le visage est dissimulé. Et l'enquête s'oriente à présent sur l'identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles, précise le parquet de Lyon dans un communiqué, ne faisant état pour l'heure d'aucune interpellation. En revanche, l'on sait par Alice Cordier qu'un des assaillants a été identifié comme membre de la Jeune Garde, Jacques-Élie Favreau, par ailleurs assistant parlementaire du fondateur du groupuscule Raphaël Arnaud, qui entre parenthèses a décidé ce matin de se mettre en retrait le temps de l'enquête. Et Alice Cordier a déclaré à Maurice Coutancé pour le Figaro, oui, il a été identifié par ceux qui nous protégeaient, car il ne portait pas de masque et se tenait en première ligne lors de cette attaque. Jacques-Élie Favreau est connu à Lyon comme un activiste violent, actif, qui nous connaissions donc son visage. Et cette attaque ressemble beaucoup au procédé de la Jeune Garde, une arrivée massive en groupe, plus nombreux que les assaillis, et l'enquête nous le dira, mais cette agression semble bien avoir été coordonnée. Et de son côté, maître Bertrand Seine, l'avocat de Raphaël Arnaud, dans un communiqué transmis ce dimanche au quotidien Le Progrès de Lyon, comme le relate le Parisien, nie formellement, je cite, être responsable de ce drame. Mais comme l'écrit Olivier Bacusa à la une de l'Opinion, les insoumis peuvent toujours crier à l'instrumentalisation et exprimer faussement leur indignation. Le drame de Lyon, tel un boomerang, n'est pour eux qu'un juste retour à l'expéditeur. Il devrait aussi servir de leçon à tous ceux qui, pour des raisons bassement électorales, seraient tentés de pactiser avec l'extrême gauche ou d'excuser et minimiser les outrances des insoumis. Alors n'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon, comme le rappelle Antoine Oderdov dans un article en page intérieure de l'Opinion, appelait ses partisans le 30 avril dernier, lors d'un meeting à Auxerre, à se regrouper derrière la bannière de la Jeune Garde, décrite comme une organisation alliée, je cite, « En se mettant en rang par deux, trois ou quatre, ils ont protégé nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Bravo jeunes gens, continuez jeunes gens », encourageait-il à la veille de la manifestation du 1er mai chahuté à Lyon. Et puis j'ajoute, comme le souligne La Croix, que plusieurs candidats aux municipales de Lyon ont décidé d'arrêter de faire campagne, comme Alexandre Dupalet, le candidat UDR Rassemblement National, mais aussi Jean-Michel Aulias, candidat de la droite et du centre, et même la candidate de la France Insoumise, Anaïs Belouassa, et le maire écologiste Grégoire Doucet a simplement appelé, lui, à l'apaisement.
Merci pour cette revue de presse, Gilles, et on en discute en zone libre.
Ligne droite, émission spéciale.
Ce qui est assez intéressant, c'est de voir effectivement toutes ces réactions politiques. Alors, certaines se sont fait un peu attendre, elles ont fini par arriver, notamment celle du Rassemblement national. Mais ce qu'on peut constater, c'est que cette union des droites qui était présentée comme étant vraiment si compliquée, samedi, on en a quand même eu un aperçu pendant cet hommage, cette manifestation voilà, qui est en l'honneur de Quentin qui a eu lieu. Et donc, on a vu des personnalités de Reconquête, UDR, du Rassemblement national. C'était assez encourageant.
Oui, je pense que dans ces cas-là, il y a une sorte d'union nationale qui se regroupe. Et puis, je pense que la mort d'un jeune ne laisse jamais indifférent de n'importe quel bord qu'il soit. Quand on sait simplement, il faut revenir aux faits toujours, parce que la seule personne qui ne se soit pas exprimée, c'est Madame Hassan.
Ouais.
Et c'est elle qui a été le ferment, si j'ose dire, de cette rébellion et de cette rixe qui dépasse le mot de rixe d'ailleurs. Quand on sait qu'elle avait été interdite à Sciences Po Paris et qu'elle a été acceptée à Lyon, il est normal qu'il y ait des protestations pacifiques comme il y en a eu devant l'établissement. Et est-ce qu'il y a eu une seule réaction aussi du président de cette université de Sciences Po Lyon? Voilà, moi, c'est des questions que je me pose aujourd'hui et ça devrait remettre en cause beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Bon, on attend peut-être à 15h les déclarations du procureur et puis des enquêteurs et on verra bien ce qui va en déboucher. Mais je pense qu'aujourd'hui, la campagne peut changer de nature, toutes les campagnes électorales.
Alors, elle s'est quand même exprimée, Rima Hassan, mais via son compte X, elle a fait un tweet.
Ouais, ouais.
Enfin, elle en a fait plein pour expliquer qu'il n'y avait pas de lien entre l'extrême gauche et la violence. Ça, c'est vraiment, voilà, elle a rappelé que les vrais violents, c'était l'extrême droite. Je pense que chaque auditeur qui nous écoute a
bien
vraiment une idée assez précise de ce qu'il faut penser de ce tweet. Mais voilà, elle a aussi dit « J'ai appris avec effroi les faits concernant le jeune homme Quentin ». Donc, elle commence en disant qu'elle est choquée par ce qu'elle apprend, mais que quand même, c'est pas sa faute. Et vous l'avez dit, elle se dédie complètement. On a un Jean-Luc Mélenchon aussi qui
a expliqué... Pardonnez-moi, mais en tant que soi-disant responsable politique, elle n'a pas fait de déclaration à des journalistes. C'est
non,
ça que je voulais
ça,
dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se défausse par des comptes personnels. C'est comme si le président de la République parlait d'abord sur X avant de faire un comité
officiel.
Et encore, bah
oui.
Souvent.
Bah oui, mais je trouve ça assez choquant. Je veux dire, les réseaux sociaux, ce sont des relais personnels. C'est des comptes personnels. Quand on est homme politique, on s'adresse, on fait des communiqués de presse, comme l'avocat d'ailleurs des deux côtés, on fait des communiqués de presse à la presse, voilà, tout simplement. Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est cette non-responsabilité et de ne pas voir les choses en face, quand même.
On verra bien jusqu'où ça ira. Il y a une enquête en cours.
Absolument. On va laisser
Merci beaucoup.
Enquêteurs.
On vous retrouve demain. N'hésitez pas à nous tenir au courant de la façon dont les choses évoluent. On sera ravis d'en discuter avec vous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur YouTube et sur X. On était présents donc sur le terrain ce dimanche pour ce reportage que vous pouvez retrouver sur YouTube, la manifestation d'hommage pour Quentin. Si vous voulez qu'on puisse continuer ce travail de l'information, assurer aussi ces contrefeux face aux discours de la gauche qui sont très puissants dans les autres médias, eh bien, il faut donner à Radio Courtoisie.
Voilà, aidez-nous pour le contre-feu. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, puisque je vous le rappelle, Radio Courtoisie ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent. Alors si vous l'écoutez, que vous ne donnez pas encore et que vous le pouvez, un petit don pour nous aider. Soutenir.rc.fr, un grand merci d'avance.
Voilà, et tout de suite, l'extrême gauche tue. Que fait l'État? On en parle avec Olivier Frère-Jacques, c'est un entretien passionnant.
Ligne droite, émission spéciale.
Et on débute, chers auditeurs, avec Olivier Frère-Jacques, journaliste chez TV Liberté, rédacteur en chef de Liberté Politique et puis contributeur à ce dossier Extrême Gauche, Réalité, Violence et Réseau pour l'Observatoire des Violences Politiques. Bonjour Olivier Frère-Jacques et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors évidemment, vous avez donc travaillé sur le dossier que je viens de citer et on imagine que l'affaire de ce week-end avec donc le meurtre de ce jeune Quentin par, a priori, des militants de la Jeune Garde fait tout à fait écho à ce que vous avez pu décrypter et dénoncer dans cette étude.
Oui, en effet. Alors, cette affaire tragique, en fait, fait plus qu'écho. Elle confirme ce qu'on explique dans la brochure qui a été publiée par Liberté Politique et l'Observatoire des violences politiques. Des violences d'extrême gauche, il y en a quotidiennement en France. Nous, avec l'Observatoire des violences politiques, on en a recensé 250 violences pour l'année 2025 et 44 contre des personnes. Et encore, l'Observatoire des violences politiques ne recense pas toutes les violences d'extrême gauche parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour recenser tout ça. L'extrême gauche, comme le disait votre collègue à l'instant, elle a l'impression d'avoir, l'extrême gauche antifasciste, extra-parlementaire, l'impression d'avoir, comme l'extrême gauche parlementaire, un ascendant moral et en réalité un droit à toute forme de violence contre ce qu'ils appellent les fascistes et qui sont en fait tout ce qui n'est pas comme eux. Et à partir de là, la violence peut se déclencher de manière complètement débridée et souvent avec un mode opératoire qu'on retrouve qui est à 10 contre 1, puisque ça, c'est encore une fois pas un cas isolé. Des cas comme Quentin, il y aurait pu en avoir plein au cours de l'année, ne serait-ce que pendant l'année 2025.
Mmh. Alors évidemment, d'ailleurs, on pourra en reparler après, mais ça nous inquiète pour les prochaines échéances, notamment électorales, puisqu'on le sait, c'est généralement le genre de période où ils sont particulièrement actifs en fonction de la façon dont les résultats sortent des urnes. Quand vous dites qu'il y a quotidiennement des violences, effectivement, c'est quelque chose qui a été souvent relevé, dénoncé par des militants de terrain, et ça va des gens qui tractent pour leur élu Rassemblement National, justement, jusqu'à ces militants nationalistes. On a l'impression que la jeune garde, finalement, jusqu'à aujourd'hui, était assez peu inquiétée malgré toutes ces actions qu'elle pouvait répéter dans la rue, ces actions violentes qui sont parfaitement documentées, puisque vous l'avez dit, quand on fait ce travail de recherche, on se penche sur les chiffres, on les trouve.
Oui, la jeune garde bénéficie de largesse en fait, de l'appareil judiciaire et médiatique. On voit Public Sénat, par exemple, qui est une chaîne payée avec vos impôts, qui faisait un reportage sur Raphaël Arnaud, donc l'ancien chef de la Jeune Garde Lyon, qui est devenu député pour LFI, avec une complaisance étonnante pour quelqu'un qui est quand même à la tête d'une organisation qui a été dissoute. On voit la Jeune Garde qui s'est affichée avec des députés de la France Insoumise, qui est venu notamment à des entraînements de combat organisés par la Jeune Garde. C'est une impunité qui est totale, ils sont dissous, ils continuent d'agir. Tout le monde le sait, puisqu'ils continuent de coller leurs autocollants, de faire leurs actions, etc. Et il y a une espèce de passe-droit accordé à cette gauche extra-parlementaire qui n'est pas du tout le cas pour les organisations dissoutes quand elles sont de droit à toute sensibilité identitaire.
Mmh. Ce qui est impressionnant, c'est que vous, encore une fois, vous avez aussi travaillé sur la façon dont toutes ces mouvances d'ultra-gauche s'organisent. Il y a une véritable hiérarchie, ça fonctionne en réseau. Et donc aujourd'hui, si beaucoup pointent du doigt la responsabilité de Raphaël Arnaud, c'est parce qu'il a été notamment donc, le chef de la Jeune Garde. Et donc, au regard de votre étude, est-ce qu'on est effectivement en droit de penser que Raphaël Arnaud a cautionné, d'une certaine façon, ses méthodes et donc... si on élargit jusqu'au meurtre de Quentin, en tout cas moralement et dans la façon de fonctionner.
Ben, indubitablement, Raphaël Arnaud, comme chef de la Jeune Garde, a une responsabilité, d'autant que son assistant parlementaire, on verra ce qu'il en est, mais serait mis en cause et en tout cas est une personne qui a commis des violences régulièrement, plus que Raphaël Arnaud. Parce que Raphaël Arnaud, en réalité, c'est celui qui a fait le point de jonction avec la France Insoumise, donc avec l'extrême gauche extra-parlementaire et l'extrême gauche institutionnelle. Mais lui, ça n'a jamais été un courageux. Ça se sait, tous les retours de terrain qu'on peut avoir, quand il y a une bagarre, c'est plutôt celui qui va prendre le taxi. Il a ses copains qui, eux, sont plus des cogneurs, des bagarreurs. Et lui, il servait plus d'entremetteur avec la France Insoumise il a plus servi à institutionnaliser la cause antifasciste auprès d'un parti politique qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, c'est évident que lui a des liens avec des gens qui ont des comportements violents très régulièrement et que lui n'a pas pu participer à des violences, notamment à des violences qui se pratiquent à 10 contre 1, puisque c'est plutôt dans ce type de schéma qu'il pouvait se retrouver lui personnellement.
Vous parlez d'institutionnalisation de ces mouvances d'ultra-gauche. Encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'à droite, la frontière est très claire entre justement les élus politiques et ces militants de terrain, ces militants nationalistes, jusqu'au point même que certains parfois le regrettent un peu, ou en tout cas réclameraient que ce soit le cas, mais dans une moindre mesure. À gauche, on est complètement décomplexé sur cette proximité qu'il y a entre les bancs de l'Assemblée nationale et la rue.
On est complètement décomplexé à gauche là-dessus, mais ça va peut-être changer, parce que pour le coup, ouais. Là, ça commence à bouger, on voit que les insoumis sont un peu gênés, ils tentent de communiquer un peu en catastrophe, parce qu'ils se rendent compte quand même que c'est quelque chose d'extrêmement grave et tragique, c'est quand même un jeune garçon qui est mort et qui a été lynché, puisque quand même, je le répète, on est quand même dans des schémas 10 contre 1, enfin, ce sont des fous furieux, ces gens-là n'ont aucun honneur, et quand on voit Coquerel, Éric Coquerel de la Commission des Finances, qui lui-même a des dossiers sur le dos pour des affaires de comportement inapproprié avec des femmes, et qui lui se permet de dire c'est de la faute de ce qu'il appelle l'extrême droite qui a mis un climat de violence à Lyon. En fait, quand un jeune de 23 ans se fait tuer et qu'un élu dit ça, enfin, c'est hallucinant, enfin, c'est insupportable d'entendre des conneries pareilles. Moi, honnêtement, je trouve, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'est pas possible que ce type-là soit au niveau où il est. Enfin, c'est d'une indécence crasse. Mais en face, on voit le Parti communiste qui a condamné quand même cette violence. Olivier Faure pour le parti socialiste. Même Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était les insoumis qui étaient victimes de violences, tout ça, mais on voit qu'il est mal à l'aise. Donc c'est possible aussi que maintenant il y ait une exfiltration des antifascistes du dispositif insoumis. Parce que, à mon avis, c'est un peu le bâton merdeux des élections. C'est qu'ils vont avoir un retour de flamme. Parce que ça, c'est un premier cas, il peut y en avoir d'autres. Et peut-être que grâce à malheureusement à ce cas, on va avoir une plus grande médiatisation de tous les procès qui vont tomber sur les antifas, parce qu'il y a plein de procès en cours, notamment d'agressions du même type. À 10 contre 1, il y a des étudiants à Rennes qui ont été agressés, deux étudiants, tous les antifas ont été relaxés. Ça, c'est des choses qui sont passées sous les radars, et peut-être que maintenant, on va justement pouvoir en parler, parce qu'il y a eu ce drame.
Alors, quand on parle de cette proximité morale entre l'extrême gauche et la gauche institutionnelle, et donc cette mouvance d'ultra-gauche, on pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon qui explique que voilà, toutes les méthodes sont bonnes pour repousser les fascistes dans la rue, on a toujours cette rhétorique, il y a une proximité qui est presque professionnelle, voire carrément professionnelle, puisque ce qui est pointé du doigt, c'est le fait que par exemple des élus comme Rima Hassan se servaient de ces milices pour assurer ces services d'ordre au fil, par exemple, de ces conférences.
Oui, bah, dans le cas de Rima Hassan, je crois qu'elle s'est dédouanée d'avoir eu recours à la jeune garde. Le problème, c'est que, déjà, elle ne peut pas dire qu'elle s'en est servie, puisque dès lors que le mouvement a été dissous, ça ne fait pas très sérieux. Ensuite, les insoumis ont créé leur propre organisation antifasciste interne. Donc, ils ne peuvent pas dire on n'a rien à voir avec cette mouvance, parce que là, c'est calqué. En fait, ce sont les mêmes. Et on pourrait presque dire que si demain ils organisent leur propre parti antifasciste insoumis, ce sera une reconstitution de ligue dissoute. Et personne ne pourra le nier, parce que ce sont les mêmes personnes qui seront là.
Alors justement, il y a beaucoup qui expliquent que, voilà, il faut dissoudre ces mouvances, etc. Vous qui avez étudié la façon dont ils fonctionnent, cette hiérarchie, ces réseaux, est-ce que vous pensez vraiment que ça ferait une différence si jamais la justice décidait qu'il ne devrait plus exister de tels groupes? Est-ce que ça suffira justement à les réduire à néant? Parce que dans les faits, ces groupes-là sont formés d'individus, eux vont toujours exister, vont toujours communiquer entre eux. Oui, il y a cette fameuse menace de reconstitution de ligue dissoute, mais quand même, il peut y avoir des moyens de contourner ça.
Non, dans le cas des mouvements d'extrême-gauche, la dissolution ne sert à rien. Dans le cas des mouvements nationalistes ou identitaires, ça sert à quelque chose, puisque les juges, entre guillemets, jouent le jeu. C'est-à-dire que quand vous avez les organisations nationalistes qui sont dissoutes, les militants sont surveillés en permanence, on leur pardonne rien. Quand vous avez une organisation d'extrême-gauche qui est dissoute, en réalité, les gens sont encore actifs, on l'a vu, puisque la jeune garde est dissoute. Et on va voir la suite de l'enquête, mais apparemment, il n'y a pas de doute, ce sont des membres de la jeune garde qui, ensemble, ont massacré le garçon qui s'est fait tuer. Donc la dissolution ne sert pas. Tant que ça, on parle beaucoup de dissolution parce que ça permet de faire du bruit, ça permet aux élus de dire, c'est comme quand ils disent « je condamne, je me rends sur place ». En fait, ça permet de faire un peu d'indignation, de dire « on va dissoudre », mais en réalité, dans le cas des mouvements d'extrême-gauche, ce qu'il faut, c'est les suivre et les marginaliser, et les pointer du doigt, dire telle personne qui travaille à tel endroit est membre de la jeune garde. Il faut faire exactement ce qu'ils ont fait avec les militants nationalistes. C'est comme ça qu'on éradiquera les groupuscules antifascistes, en fait, c'est en pointant du doigt leurs membres et en les sortant de la respectabilité sociale. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont embauchés comme assistants parlementaires, comme on a pu le voir. Ils sont tout à fait tranquilles. C'est même plutôt bien vu de se dire antifasciste à la télé. Ils passent à la télévision publique, comme on en parlait avant. Je pense que la dissolution, c'est un vœu pieux. Ça permet de faire des opérations, de récupérer des adresses mail en disant on va faire la dissolution. Tout ça. Pourquoi pas, hein, ça permet de faire un peu de communication autour de tout ça, mais c'est absolument pas suffisant, parce qu'en plus derrière, et c'est un point important, c'est que l'appareil judiciaire ne suit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Jeune Garde est une organisation antifasciste d'extrême gauche, antifasciste donc d'extrême gauche, et il y a des manifestations, elle manifeste à côté de membres du syndicat de la magistrature. Donc à un moment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un laxisme judiciaire autour de ces jeunes-là, ces individus, parce que ils tirent dans le même camp. Si vous êtes face à un juge qui pense comme vous, évidemment, il va être plus clément. Parce qu'il estime aussi que ce qu'ils font est bien, en fait. C'est une lutte qui serait juste, quoi.
Oui, parce que c'est ce qui est vraiment ressorti de tout ça, c'est que c'est tout un système qui a été complaisant trop longtemps à leur égard, que ce soit politique, médiatique, judiciaire. Est-ce que vous pourriez, Olivier Frère-Jacques, pour les quelques minutes qui nous restent, nous dresser un peu le portrait de ces jeunes, de la Jeune Garde, sociologiquement, à quel type de jeunes on a affaire? Parce que bon, il y a peut-être beaucoup de Français qui s'imaginent que ça va être... des jeunes complètement marginaux, etc. On réalise en de toute évidence, en découvrant le visage d'Eliott Elie Favreau, qui est énormément cité, donc suspecté pour le moment, en tout cas par l'opinion publique dans cette affaire, on verra bien ce que ça donne, voilà, il a cette tête presque de gendre idéal, il fait des études, il se retrouve assistant parlementaire, il y a un décalage entre leur statut dans la société, la façon presque dont ils se présentent et la façon dont ils se comportent.
Il y a même plus qu'un dégage, c'est complètement paradoxal, notamment en particulier chez les antifascistes qui ont un profil, qui sont tous pour le métissage et pour l'immigration, mais qui sont quasiment tous blancs, à part dans quelques sections, notamment parisiennes, où il y a de la banlieue qui vient, notamment issue du stade, des tribunes Auteuil, tout ça, vous avez un peu plus de diversité, mais dans le cas de la Jeune Garde, enfin, Raphaël Arnaud, c'est un Gaulois, quoi, il est blanc. Mm. Il le regrette probablement, mais on voit que dans le profil, on est sur un profil très blanc, bourgeoisie, petite bourgeoisie, pas très prolo. Et en réalité, ils ont un profil qui correspond à ce qu'ils appelleraient presque le fascisme d'une certaine manière. Et ça s'est vu encore plus quand il y a eu l'affaire Méric. J'en parle aussi de l'affaire Méric parce que on va nous le ressortir, l'affaire Méric, en disant, il y a eu pareil de l'autre côté. Mais en fait, ça n'a rien à voir parce que l'affaire Méric, c'est un contre un. En fait, ce sont deux personnes qui se battent et l'antifasciste qui agresse. Alors que dans le cas ici, c'est 10 personnes contre 1. Et les antifascistes qui agressent. Donc là-dessus, ça n'a rien à voir. En revanche, ce qui est intéressant, c'est sur la sociologie. Et on en a déjà parlé sur cette antenne de la sociologie de l'affaire Méric. L'affaire Méric, c'est Clément Méric, c'est un garçon issu de la noblesse bretonne, qui a des parents profs, qui est d'un milieu plutôt, disons, on dirait, aisé, moyen aisé. Et face à lui, c'est un garçon qui s'appelle Esteban Morillo, qui est issu de l'immigration espagnole, donc qui est un immigré d'une certaine manière, et qui est d'un milieu populaire et qui travaille comme artisan ou ouvrier. Donc en réalité, le profil des antifascistes, c'est un profil urbain, blanc, jeune et plutôt tendance à faire des études ou à traîner dans ses études.
Bon, merci de rétablir toutes ces vérités. Merci pour votre travail aussi, Olivier Frère-Jacques, de travail de documentation extrêmement précis. Et d'ailleurs, vous l'avez fait alors justement que ce moment-là, ce n'est pas vraiment un fait d'actualité. Vous faites partie de cette minorité qui documente toute cette violence bien avant qu'elle nous éclate à la figure au grand jour. Donc voilà, merci pour tout ce travail. Je rappelle que vous êtes par ailleurs journaliste chez TV Liberté, rédacteur en chef de Liberté Politique. On vous réinvitera probablement très bientôt.
Gentil. Merci beaucoup, à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Lise-Lotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. Je vous le rappelle, la radio compte sur vos dons, ça nous permet de couvrir le terrain, notamment lors d'événements comme il a eu lieu hier à Paris, cette manifestation en hommage au jeune Quentin tué par des antifas. Donc voilà, continuez de soutenir la radio et puis nous, on vous promet d'assurer le travail.
Voilà, et dans des affaires comme ça, effectivement, il est bien de, comme vous disiez tout à l'heure, d'offrir un contre-feu à nos auditeurs avec d'autres points de vue que vous n'entendrez probablement pas ailleurs. Alors aidez-nous sur soutenir.rc.fr en faisant un don en ligne, soutenir.rc.fr, mais aussi en parlant de Radio Courtoisie autour de vous et de cette émission en particulier. N'hésitez pas, c'est comme ça que cela fonctionne. Merci.
Merci d'avance, chers auditeurs. Quel sera le programme du jour, Franck ?
Un entretien avec Daniel Abrecorne par Jean-René Ladmiral dans quelques secondes. À midi, le libre journal de Michel de Rostolan. À 16h30, en toute bonne foi, de France Andrieux. À 17h, culture et politique de Richard Haddad et Pierre-Henri. Aujourd'hui, la gauche et le parti du meurtre, selon Elon Musk. L'Iran, silence, massacre. La France, une monarchie totalitaire. À 17h30, le rendez-vous de la réinformation dans le Restons Courtois, dirigé par Pierre-Alexandre Bouclet. 19h30, le libre journal du lundi soir par Romain Petitjean. Et à 21h30, la soirée musicale de Claudia avec le 5e épisode des émissions consacrées au générique de Radio Courtoisie.
Un beau programme. Et demain, on se retrouve à 7h, chers auditeurs. Bonne journée.
Bonne journée à tous.